Voilà. En tout cas, on est reconnaissant pour toutes ces prestations, depuis les enfants jusqu'aux adultes. J'espère que voilà, chacun de vous a pu apprécier ces moments qui ont été préparés pour la communauté, mais aussi pour tous ceux et toutes celles qui sont là ce matin. Je vais maintenant avec vous faire un petit parcours en deux parties. La première partie, vous dire à peu près comment nous, les églises protestantes évangéliques, comment nous vivons Noël. Hein, d'où est partie cette histoire de Noël et comment nous la vivons, nous. Et puis, dans un deuxième temps, partager un texte de la parole de Dieu, un texte biblique avec vous, pour nous inviter au travers de tout ce qui a été déjà dit, mais plus précisément dans cette parole que nous appelons la Bible, la parole de Dieu, vous inviter à méditer, à réfléchir sur le sens de cette parole que Dieu nous a donnée par le Christ Jésus. Je vous invite à prier, mais restez assis. Seigneur, on veut te remercier pour toute cette première partie de ce temps ensemble, pour ces chants qui nous rendent le cœur joyeux, pour ces paroles. En tout cas, on se réjouit. C'est vrai que des fois, la vie n'est pas simple, mais d'avoir des moments comme ça où nous pouvons être encouragés, nous pouvons nous dire, tout n'est pas perdu. Pouvons dire, il y a quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Pouvons nous dire qu'au bout de ce tunnel, il y a Dieu et qu'il est capable, parce qu'il est la lumière du monde, de faire jaillir cette lumière. C'est un privilège et c'est une grâce. Et nous voulons ce matin vraiment que tu nous aides, nous tous qui sommes là, invités et nous-mêmes, à regarder à cela et à ne pas baisser les bras, mais à lever les yeux vers toi. Car toi, tu donnes de l'espérance, toi, tu donnes l'espoir. Toi qui es le Dieu qui. Toi, tu es le Dieu de la vie, tu donnes la vie. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Première partie, alors, parlons de Noël. Je vais vous situer un peu. C'est une collègue à moi qui est spécialiste dans ce domaine parce qu'elle a fait des études dans ce sens-là, une thèse de doctorat. Et donc, qui a retracé un peu l'histoire de la Noël au cœur des églises protestantes. Et donc, je vais suivre quelques slides qu'elle m'a passé il y a bien longtemps maintenant, pour vous situer un peu les choses. On est à peu près au début de notre ère, donc on est à peu près au 4e siècle, et la foi chrétienne avait commencé vraiment à se répandre, dans le sens où les communautés chrétiennes vivaient quelque chose de spécial, et ça parlait aux gens, et les gens cherchaient à découvrir. Et puis il y a eu un roi qu'on appelle Constantin, qui lui aussi s'est ouvert à la foi chrétienne et qui est devenu chrétien. Et à partir de là, c'est vrai qu'il a eu cette ambition de partager cet amour de Dieu à tout son royaume. Finalement, vous savez, quand on a une autorité, on fait un peu beaucoup de zèle. Donc, il y avait une fête celte. Hein. C'était la fête qu'on appelait la réjouissance du soleil, hein, le solstice dans ce côté de l'hémisphère, où le soleil était là et ces peuples avaient l'habitude de fêter ce soleil-là. Et donc, sous l'autorité de l'empereur Constantin, l'Église y a vu un signe, puisque Jésus est appelé aussi, le Fils Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. Et l'Église y a vu un signe, et c'est comme cela qu'en 354, l'Église a décidé que cette fête, qui était une fête, on va dire, non chrétienne, prenne un contenu chrétien. Et comme ça se passait en décembre, le 24 décembre, l'Église de l'époque a décidé que le 25 décembre serait désormais une occasion de célébrer l'enfant Jésus. Étant entendu que les textes bibliques ne nous donnaient pas de date précise de la naissance de l'enfant Jésus, l'Église s'est saisi de ce symbole pour fixer cette date. Voilà l'origine au 3e, au 4e siècle du début de la célébration du 25 décembre comme la naissance de l'enfant Jésus. En cela, nous qui sommes des chrétiens, cette tradition, elle continue de se pérenniser. On sait avec certitude que Jésus est né. Ça, c'est une certitude. Mais Jésus, fils de Dieu, a accepté de naître comme l'un d'entre nous, comme quelqu'un d'anonyme finalement, d'un modeste. À cette période-là, quand vous naissez dans ces conditions modestes, bah, votre date de naissance, elle n'est pas forcément quelque chose qu'on met en épingle. Moi qui viens de l'Afrique, mes parents, qui ne sont pas du temps de Jésus, ils sont nés vers les années 50, mais on ne connaît pas le jour exact de leur naissance. Donc, on dit qu'ils sont nés vers. Et donc, arbitrairement, on a fixé une date. Hein, mon père, c'est le 1er janvier. Mais il sait bien qu'il n'est pas né le 1er janvier. Voilà. Mais l'officier d'état civil a dit, à partir d'aujourd'hui, toi, Alphonse, tu es né le 1er janvier de telle année. Et beaucoup des personnes de ma génération, de la génération de mes parents, ont cette date-là, qui n'est pas la date exacte, parce qu'ils sont nés dans des conditions où on n'avait pas cette administration assez, on va dire, assez développée, où on retenait. Ils avaient leur façon de retenir, mais pas comme nous. Or, Jésus est de cette époque plus ancienne encore. D'où la difficulté, en tout cas, de fixer une date de cette naissance. On sait exactement la période de l'année parce qu'il y a eu un recensement de l'Empire. Et ça, c'est chroniqué, c'est écrit. Et ça, on peut retrouver les traces historiques. Et on sait que ce recensement a eu lieu entre l'an moins 4 et l'an 0. Donc, on sait que Jésus est né dans cette période-là. Donc, la naissance de Jésus ne fait pas de doute. Mais la date, c'est un choix de l'Église en ce moment-là de dire on fixe cette date-là comme étant la date de la naissance de Jésus. Partant de là, vas-y. On a, toujours dans ces recherches, on a la première apparition d'une crèche en Italie en 1222. C'est la première fois qu'on met cette scène comme ça en crèche dans la culture chrétienne. La slide d'après. Et puis sur le sapin, il y a toute une histoire. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà, il y a des contes, hein, mais l'histoire du sapin, en tout cas dans la tradition protestante, elle est relatée par des chroniques d'un certain Boniface, qui est un évangéliste de cette époque-là, protestant, et qui dans son effort de convaincre certains druides qui pratiquaient encore des arts occultes, donc maléfiques, et que finalement, un des arbres qu'ils vénéraient et qu'ils avaient pour habitude de dire que c'était un arbre un peu mystique, en fait, cet arbre n'était pas mystique. Et donc, d'après la légende, parce que c'est une histoire qui est racontée, on a abattu cet arbre-là, ce gros arbre, et en tombant, il a broyé tous les arbres sous sa chute, sauf un sapin qui n'a pas été broyé. Et donc, Boniface a dit, il y a un signe là. Et donc, à partir de ce moment, d'après cette histoire, Boniface a fait du sapin l'arbre de Jésus. Et c'est comme ça que le sapin a pris cette consonance dans la tradition protestante en Allemagne. C'est en Allemagne que ça s'est passé. Et donc, on a commencé avec cet arbre, en plus déjà de la célébration, on a commencé à étoffer cette cérémonie de Noël. Et chaque élément avait un symbole. Hein, ça s'appelle la leçon des choses. Hein, vous voyez bien ce qui est là. L'arbre qui reste vert, pour ceux qui ont une culture biblique, c'est le psaume 1. Hein, l'arbre qui ne flétrit jamais, qui reste vert, qui donne son fruit en chaque saison. Donc le vert représente, voilà, ce symbole du croyant comme un arbre toujours vert, qui reste toujours dans la dynamique de sa foi et qui produit des bons fruits, que ce soit en valeur, en caractère. Et la pomme, ça vous rappelle quelque chose? Non? Quand on dit pomme, on est notre culture. Voilà, c'est Éden. Hein? Le jardin d'Éden. On a dit c'est une pomme. Théologiquement, on ne sait pas si c'est une pomme. Mais on a dit c'est une pomme. Donc du coup, c'est vrai que la pomme rouge était le symbole du paradis. On l'a remplacé par des boules rouges. Ok? Jusqu'au 11e siècle. Et puis la lumière. Hein? Noël, c'est la lumière, la fête de la lumière. Ça symbolise le Christ, lumière du monde. Et enfin, les cadeaux. Les cadeaux, symbole de la joie. Qui n'a jamais reçu de cadeau étant en joie? C'est vrai, il y a des cadeaux, parfois tu les reçois, tu dis, oula. Mais en général, on est en joie. Hein? Maintenant, on peut les échanger aussi, donc ça va. Parce que des fois, à une époque, on ne pouvait pas les échanger, donc tu te dis, mais je vais faire quoi avec ces cadeaux? Et puis, tu as la banane quand même, mais voilà. Mais le cadeau, c'est un symbole de la joie. Et il est fait de façon très modeste. Et on a la première mention d'un sapin de cette taille-là. Et c'est une image d'archive en 1738 au château de Versailles par Marie, je vous passe le nom, épouse Lorraine de Louis XIV. Okay? Et c'est la Louis XV du moins. Et c'est la première mention d'un sapin décoré de ce type-là. Et comme je vous l'ai expliqué, tous ces symboles protestants ont été finalement popularisés à partir du 19e siècle par le mouvement des écoles du dimanche. Les écoles du dimanche, pour ceux qui ne sont pas de culture protestante, c'est l'endroit où les enfants, quand nous venons à l'église, vont être enseignés aussi, tout doucement, introduits dans la lecture, dans la compréhension de la Bible. Et c'est justement cette école du dimanche qui, à l'occasion de grandes fêtes, était dans une ambiance de propager la bonne nouvelle aux enfants et aux parents et qui organisait justement des grandes rencontres avec des sapins, avec des choses comme ça. Et ça a pris au 19e siècle. Et on fête l'arbre, on dit fête de l'arbre, mais en fait, aujourd'hui, c'est devenu le sapin de Noël. Et l'un des grands événements qu'il y a eu, c'était à Lyon, toujours dans cette mouvement des écoles du dimanche. Ils ont organisé l'un des plus grands sapins de Noël à ce moment-là. C'était un jeune qui est finalement devenu non seulement pasteur, mais professeur d'institut public, Ruben Saïens, et qui a été aussi compositeur de beaucoup de chants dans la foi chrétienne. Mais à l'époque, il avait 18 ans. Et avec son équipe, ils ont organisé à l'époque à Lyon, dans ce qui s'appelle le Palais Saint-Pierre. Donc ça, c'est une image d'archive parce que le Palais Saint-Pierre est devenu maintenant ce que vous voyez là. Mais c'était ce qui s'était passé en 1872. Et la fête a été un succès. Il y a eu 1200 spectateurs, 1200 spectateurs qui ont rempli la salle. Et ils ont partagé la parole de Dieu. L'idée, c'était voilà, de rassembler toutes ces personnes, de leur annoncer cette bonne nouvelle et de leur faire des petits cadeaux. Donc voilà comment cette tradition a pris dans la foi protestante, dans notre histoire d'église. Et nous, finalement, nous les églises évangéliques, et Eunice l'a dit, dès le début de la célébration des tout-petits, ce matin, on ne connaît pas la date. Donc, nous, on est très attachés au texte biblique. Et comme il n'y a pas de date dans le texte biblique, nous nous servons généralement de cette période de Noël dans notre tradition protestante, puisqu'on a reçu cette tradition, pour faire un écho d'un autre texte biblique que l'apôtre Paul laisse à Timothée et qui dit « Je t'en supplie devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole, c'est-à-dire annonce la bonne nouvelle, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. » Et finalement, pour nous, la période de Noël est une occasion favorable où nous pouvons inviter nos familles, inviter nos amis à venir vivre un temps avec nous dans l'église. Et nous avons aussi cette opportunité de partager à la fin de ces cultes un moment de repas fraternel avec eux et de leur présenter, en tout cas, ce qui, selon pour nous, est une bonne nouvelle. Donc voilà comment nous, en tant qu'église protestante évangélique, nous nous saisissons de cette période de Noël. Et justement, je vais, dans cette deuxième partie, vous présenter cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vas-y encore. Et je vais vous inviter à lire dans l'évangile de Saint Jean, comme on dit dans certaines traditions, nous on dit l'évangile de Jean tout court. Et dans cet évangile, le premier chapitre est un chapitre, vas-y encore s'il te plaît, est un chapitre qui nous parle justement de l'aspect spirituel de cet enfant Jésus. Les autres évangélistes, que ce soit Matthieu, Marc ou Luc, commencent par présenter historiquement le récit de la venue de Jésus au monde avec ce qu'on appelait l'Annonciation. Quand l'ange vient parler à Marie, ça s'appelle l'Annonciation. Donc, ce récit dans les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, commence avec l'Annonciation. Jean, dans son évangile, il commence par cette affirmation très forte. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé de Dieu. il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Verset 10. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Voilà ce témoignage de la Bible dans sa deuxième partie qui s'appelle le Nouveau Testament, dans l'Évangile que Jean, l'apôtre, nous a laissé. Quelques explications de cette parole profonde, cette parole forte. Ce qu'on appelle aujourd'hui la naissance de Jésus, ça s'appelle l'incarnation. Dieu, créateur de toutes choses, en tout cas, c'est ce que nous croyons, c'est ce que la Bible affirme avec certitude. Nous croyons aussi en la science parce que nous croyons que la science est un don de Dieu et que la science n'est pas tout le temps opposée à Dieu, sauf dans certaines de ses dérives. Et la science, des fois, confirme ce que nous voyons dans les textes bibliques. Nous croyons que Dieu est créateur de toutes choses. Cette incarnation de Jésus, c'est Dieu qui se révèle de manière personnelle. Nous qui avons eu cette grâce de découvrir ce Dieu, nous réalisons que c'est un Dieu personnel. C'est pas une idée vague. C'est pas, comment dire, c'est pas une chimère. C'est pas une légende. Ça fait 2000 ans que génération après génération, civilisation après civilisation, ce Dieu se révèle, se montre, parle. Et la meilleure façon dont il s'est révélé, c'est quand il est venu dans son fils Jésus, cette incarnation. Jésus, qui avait aussi ce deuxième prénom, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu prend donc notre humanité en tant que créateur, il s'humilie pour être comme nous. C'est un Dieu personnel. Il est venu s'unir à notre humanité pour une raison, c'est pour porter nos péchés. La Bible affirme avec vérité, et nous sommes malheureusement tous obligés, en tout cas une certaine partie d'entre nous, de le constater, nous sommes tous un peu tordus. Ne serait-ce que dans nos pensées. Aucun de nous n'a jamais eu une pensée noire. Ça n'existe pas. Aucun de nous n'a jamais eu une pensée noire. On a toujours de bonnes pensées. Vous m'en direz tant. On a des fois eu des pensées. On a souvent eu des pensées. On a beaucoup eu de pensées qui n'étaient pas toujours des pensées positives. Cela montre bien que malheureusement, nous sommes un peu tous. Heureusement que nous ne passons pas tous à l'acte avec les pensées qui parfois nous submergent. Heureusement. Heureusement. Mais la Bible affirme que là encore, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait que si on est croyant ou pas, qu'on ne passe pas à l'acte, même quand on a des pensées mauvaises. Et ces pensées, quelque part, nous disqualifient. À l'époque où j'étais un peu plus jeune qu'aujourd'hui, et que je jouais au basket, il y avait une règle du basket qui disait que l'intention valait la faute. C'est-à-dire que si l'arbitre jugeait que tu as eu l'intention de faire la faute, que tu ne l'as pas faite, il sanctionne la faute. Va savoir. Mais ça montre bien que même dans notre monde, on juge nos pensées. Et quand il y a des affaires au tribunal, on cherche à voir si la personne avait une intention bien nourrie, cultivée, de poser un acte. Et quand ce n'est pas le cas, le jugement est un peu atténué parce qu'on dit, finalement, avec toutes les enquêtes qu'on a faites, il n'a pas nourri l'intention de faire cet acte. Donc, vous voyez que même notre société regarde nos pensées, regarde nos intentions qui sont immatérielles. Ne serait-ce que ça nous disqualifie. Nous disqualifie dans notre besoin d'être bon. En fait, les écrivains de notre siècle de lumière ont dit, l'homme, il naît bon, c'est-à-dire qu'il vient au monde avec une bonté, une générosité, mais c'est la société qui le rend mauvais. La Bible dit le contraire. La Bible dit malheureusement que nous naissons tous mauvais. Nous naissons tous mauvais. Ça paraît comme ça, comme un tableau sombre, mais c'est la vérité. Nous naissons tous mauvais et c'est Dieu qui nous préserve pour pas que ce mal s'amplifie, sinon ça serait la jungle. C'est Dieu qui préserve. Mais quelle est la solution à ce mal finalement? Dieu vient comme un homme pour apporter la solution ultime parce que aucun de nous ne peut se soustraire de ce mal. Il fait partie de nous finalement, ce mal, malheureusement. Nous sommes un peu condamnés, on dit, ah, c'est pessimiste, c'est noir, c'est... t'as parlé d'espoir, et que là, du coup, tu tresses un tableau noir, qu'est-ce que tu veux faire? Mais justement, la Bible dit, s'il y a une bonne nouvelle, c'est parce que devant ce drame, Dieu a envoyé une bonne nouvelle. C'est la lumière. Jésus, lumière du monde. Un texte ancien dit par Ésaïe, 700 ans avant Jésus, dit, donc c'est Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. C'est-à-dire que dans ce tableau sombre de notre humanité, tout n'est pas perdu. Au contraire, Dieu apporte la solution. Une belle lumière par son Fils Jésus-Christ. L'incarnation est la solution. Dieu vient comme un homme pour vivre ce que nous sommes, pour vivre le mal qui nous ronge, mais pour aussi apporter la solution. Et cette solution, il apporte en donnant sa vie. Vous savez, certains parents, et beaucoup de parents, et peut-être tous les parents disent, pour que nos enfants réussissent, on fait des sacrifices, n'est-ce pas? Des fois, les parents se privent d'un certain nombre de choses pour que les enfants aillent un peu plus haut, n'est-ce pas? On connaît cette propension à nous sacrifier pour ceux qu'on a mis au monde, n'est-ce pas? Parce que finalement, ce qu'on souhaite le plus, c'est que ceux qui sont sortis de nous aient un avenir meilleur. Qu'il y ait un avenir meilleur, un avenir un peu mieux que le nôtre, un avenir un peu moins tumultueux, avec un peu moins de problèmes. Donc on fait tout pendant qu'on a encore autorité sur eux, parce qu'après, ils décident pour leur vie quand ils sont majeurs. On fait tout justement pour créer des conditions pour qu'ils aient cet environnement et qu'ils puissent commencer dans la vie active avec un minimum vital. Donc nous savons ce que c'est que sacrifice pour qu'un enfant, et Dieu le fait finalement. Voyons qu'aucun de nous ne pouvait se soustraire de ce mal, il vient lui-même en Jésus-Christ pour payer le prix. Et c'est un prix d'amour. Parce que les lois sont parfois terribles. Dieu est un Dieu de justice. Et la Bible dit qu'il ne prend pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent, parce qu'il est juste. Mais en même temps, il pourvoit sa justice. Et la seule façon qu'il avait de pouvoir sa justice, c'était de venir en Jésus-Christ pour payer le prix de notre péché. Et Jésus vient donner sa vie finalement. Il vient offrir sa vie en sacrifice, en rançon, pour nous racheter du mal. Et c'est pour cela que les évangiles nous parlent de cette arrestation, de cette façon dont on l'a arrêté, on l'a jugé, on l'a condamné, et il n'a pas dit un mot. Littéralement, il ne s'est pas défendu parce que finalement, c'était pour cette heure qu'il était venu. Il y a un principe biblique qui est très difficile quand on n'a pas... Ce principe dit que quand un mal est trop... Ah, quand un mal atteint de façon terrifiante une situation, il n'y a pas d'autre solution que de donner une vie pour que ce mal soit arrêté. Souvent, quand les parents sont en colère devant des enfants ingrats, ils disent, j'ai sacrifié ma vie pour toi. J'ai tout fait pour que tu sois là et toi, en retour, j'aurais juste souhaité avoir une petite reconnaissance. J'attendais rien qu'une reconnaissance. Mais cette reconnaissance, elle n'est même pas là. Et les parents, en général, ce n'est pas le matériel qu'ils attendent, c'est cette reconnaissance que, ah, tu as été là pour moi, maman, tu as été là pour moi, papa. C'est ça que les parents attendent. Cette reconnaissance finalement. Et Dieu, dans sa grande bonté, c'est ce qu'il a fait. Alors que nous n'étions pas capables de le reconnaître, il est venu prendre l'initiative pour nous sauver. C'est incroyable. C'est lui qui prend l'initiative, qui vient en Jésus-Christ et qui dit, je viens donner ma vie. Il dit, personne ne me l'arrache, personne ne me force. Je la donne volontairement parce que je sais que pour racheter le péché de l'humain, il faut qu'un humain qui lui est sans péché, puisse porter le fardeau de toute l'humanité. Et Jésus est né de façon miraculeuse parce que justement, il était sans péché et qu'il était le seul capable de racheter le péché de l'humanité. Voilà ce que nous célébrons à Noël. Cette bonne nouvelle que Dieu lui-même a pris l'initiative de nous racheter en son Fils Jésus-Christ. Vas-y, s'il te plaît. Et il dit, désormais, cette offre, elle est pour tous les humains. Cette offre, elle est ouverte. Cette offre, elle est là. Elle est pleine parce que chaque humain compte aux yeux de Dieu. Chaque humain compte aux yeux de Dieu. Il nous connaît tous par nos noms. Il connaît chaque brin de cheveux qu'il y a sur notre tête. C'est ce que le texte biblique dit. Il connaît chacun de nous par son nom propre. C'est incroyable. Et il ne cesse, selon la parabole du fils prodigue, de rechercher chacun de nous pour nous donner sa paix, pour nous donner sa guérison, parce que des fois, nous avons besoin d'être guéris intérieurement. Et Dieu, il fait ça. Et il dit, finalement, cette offre, bah, ce n'est pas la naissance qui donne cette offre. Que tu sois né d'une tradition chrétienne, ce n'est pas ça qui te sauve, en fait. C'est pour ça qu'il dit, c'est ni par le sang, finalement. Non. C'est pas si quelqu'un décide que tu es chrétien et que tu sois... Non, c'est pas ça. C'est Dieu qui le fait en son fils Jésus-Christ. Par contre, Dieu, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Il est disponible. Il est disponible dans le secret de ta prière. Et nous, les évangéliques, parce que la Bible dit, nous croyons que si quelqu'un dans le coin de sa chambre prie Dieu, Dieu lui répond. Et ce matin, l'espace serait trop petit pour laisser la parole à quelques-uns qui ont fait cette expérience et qui ont vu ce Dieu rentrer dans leur vie. Cette offre, elle est là. Et il dit à tous ceux qui sont ouverts à cette offre, il fait d'eux des enfants de Dieu. C'est-à-dire que Dieu rentre dans une nouvelle relation filiale avec chaque être humain qui soupire et qui accepte Jésus dans son cœur. Dieu, il n'attend que ça, en fait. Il n'attend que ça. Parce que c'est celui, d'après les Écritures, il est le Dieu qui aime la relation par excellence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un Dieu personnel. Il aime cette relation. Le texte biblique est traversé par toutes les théophanies. Les théophanies, c'est les apparitions de Dieu, où Dieu apparaît à des hommes, à des femmes, à des jeunes, à des moins jeunes, où il parle avec eux, où il fait conversation avec l'être humain. Dieu est un Dieu de la conversation. Et la prière est le premier axe de la conversation. Si on veut rencontrer Dieu, on commence par la prière. Et il dit, si quelqu'un me cherche, je me laisse trouver par lui. Je me laisse trouver par lui. Je me laisse trouver par lui. Et pour finir, ce verset de l'évangéliste Jean, au chapitre 3, verset 16, dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Nous sommes ici, mais nous sommes en partance pour quelque part. Les plus vieux d'entre nous iront jusqu'à 120 ans. Mais après, on part quelque part. Il y a beaucoup de théories sur le quelque part. La Bible, elle n'a pas beaucoup de théories, elle a une seule théorie. Elle dit, c'est quelque part, c'est soit le paradis, soit c'est l'enfer. C'est soit le paradis, c'est soit l'enfer. Il n'y a pas 10 solutions, il n'y a pas 20 solutions, mais que c'est pendant qu'on est vivant qu'on peut choisir sa destination éternelle. C'est pendant qu'on est vivant qu'on choisit cette destination. Et tant que tu as la vie, jusqu'à la dernière once, jusqu'à la dernière tierce de vie, tu as encore le choix de décider d'aller dans le bon endroit. Et il y a un texte qui nous le dit. Lors de la crucifixion, aux côtés de Jésus, il y a deux brigands qui sont vraiment des brigands, des malfaiteurs. Et il y a un qui dit, je sais que ma vie a été franchement pourrie et que j'ai pourri la vie de plein de gens. Et je le regrette fondamentalement. Et il dit à Jésus, pendant qu'il est en train d'agoniser, qu'il sait que les secondes qui viennent, il va mourir, il dit, s'il te plaît, quand tu seras dans ton paradis, souviens-toi de moi. Et le texte est fort. Jésus dit, dès ce soir même, tu rentres avec moi dans le royaume de Dieu. Incroyable. Dieu donne la chance à tous les êtres humains, où qu'on soit, qui qu'on est, quoi qu'on ait fait, de nous donner une nouvelle chance. Et Dieu, il nous cherche. Dieu, il te cherche, il me cherche. Il veut faire alliance avec toi. Et son projet est un projet d'amour, finalement. Le chrétien, en principe, est quelqu'un qui est pétri de l'amour de Dieu. Et l'évangéliste Jean dit, si quelqu'un est vraiment un croyant, s'il dit qu'il aime Dieu, il doit aussi aimer les êtres humains. Celui qui aime Dieu aime les autres. Finalement, le projet de Dieu est un projet d'amour. Avoir Dieu dans sa vie fait du bien à soi-même, fait du bien à ceux qu'on aime et fait du bien. Souvent, nous prions, nous les évangéliques, nous prions, nous disons, si tous les humains avaient Dieu dans leur cœur, le monde serait un peu moins violent. Mais en même temps, l'histoire nous fait mentir, puisqu'il y a la guerre des religions. On nous dit quand même, vous dites ça, mais il y a eu 100 ans de guerre où les religions se sont affrontées. Oui, quand la religion remplace la foi chrétienne, elle donne cela. Parce que la foi chrétienne n'est pas d'abord une religion, c'est une relation avec Dieu. Ce n'est pas une institution, c'est un cheminement, c'est une marche avec Dieu, finalement. Et c'est ce que nous voulions partager ce matin avec vous qui nous visitez, mais c'est ce que nous voulons redire à l'église rassemblée ce matin. Église de Créteil, frères et sœurs chrétiens, si vous êtes chrétien, votre vie doit être pétrie dans l'amour de Dieu.